Cette semaine et j'arrive là et on va voir. C'est la première fois normalement quand je prêche quelque chose. J'ai le train, j'ai le fil et on part et c'est simple comme ça. Mais tout est préparé, mais on va voir ce que ça donne. voilà. Et aussi, si jamais, s'il y a certaines qui ne sont pas trop habituées à un accent américain, si jamais je dis quelque chose et c'est incompréhensible, vous avez le droit de qu'est-ce que tu as dit là? Il n'y a pas de souci. OK. Le message aujourd'hui, c'est sur la maturité. Et ça fait quelques semaines avec les jeunes, on a parlé de ce que ça veut dire d'être adulte et d'être mature et tout ça. Et ça a traîné un peu, et puis on était plusieurs d'aller à France en Feu le week-end dernier, à Noisy-le-Sec. Et après ce week-end, je vais peut-être, je pense, une autre fois, on fera un retour, l'équipe qui y était. Mais je vais pas mal dire, parce qu'il y a les choses que j'ai prises, ce qui était libéré prophétiquement à ce moment pour aller avec ce message. Et voilà, en rentrant, j'ai dit au Saint-Esprit, je pense que je pourrais faire un message de tout ça si jamais. Et puis, j'ai appris qu'on avait besoin de quelqu'un ce matin. J'ai dit, OK, bon, vas-y, j'y vais. OK, donc la maturité. La maturité en général et la maturité dans la foi, spirituellement parlant aussi. Donc, j'ai regardé, j'aime toujours, quand je vais faire un message, de commencer par la définition, si besoin, si c'est un thème ou un mot, quelque chose. Et donc, je suis allée chercher dans la Russe, pour les Français. Donc, c'est pas traduit, c'est directement d'un bon dictionnaire français. Il y avait plusieurs définitions. État des fruits quand ils sont mûrs, de la maturité, le mot. Période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. État de l'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Sûreté dans le domaine du jugement, de la réflexion, en particulier en fonction de l'âge. Mais on connaît, je pense, tous certaines personnes qui peut-être sont plus âgées mais moins matures que d'autres. Donc, ce n'est pas toujours l'âge qui définit si on est mature ou pas. Et puis, j'ai beaucoup aimé cette définition-là. Caractéristique d'un écosystème ayant atteint d'un état d'équilibre. Ça me va. Parce que dans la vie, on a plein de choses qui nous tirent par-ci, par-là, les hauts, les bas, n'est-ce pas? Mais si on peut atteindre un état d'équilibre, waouh! Donc, j'ai beaucoup aimé cette définition. OK, donc, dans la vie, dans le naturel, voilà les définitions. Je pense que tout le monde, oui, on voit la maturité comme ça, plus ou moins, n'est-ce pas? Donc, pourquoi c'est important d'être mature dans la foi aussi? Je vais pas mal citer Paul, l'apôtre, ce matin, parce qu'il a pas mal parlé de ça. Parce qu'il était comme un père, il était apôtre, mais il était comme un père aussi aux églises. Donc, il a pas mal, il a commencé, ils ont vu la naissance quelque part des personnes, et ils les ont suivis, il a fait des disciples. Donc, il a vu la croissance. Et il a adressé pas mal les Corinthiennes en particulier à ce sujet. C'est un peu, OK, maintenant, pourquoi tu as déjà eu du lait, maintenant on veut passer à autre chose, ce genre de choses. Dans 1 Corinthiens 13, 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Et une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Une autre traduction, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, on est plus ou moins mature que les personnes qui sont là aujourd'hui. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas. C'est un sujet qui est venu. J'ai parlé avec les jeunes, donc peut-être un peu plus à appliquer ou apprendre à appliquer pour les plus jeunes. Mais en même temps, je pense dans notre foi, on a tous besoin d'encore maturer, de grandir dedans. Et on a tous aussi nos faiblesses. On a nos forces et on a nos faiblesses. Donc il y a des domaines dans la vie, des fois, où là, j'ai besoin de grandir encore. Et là, j'ai réagi plus comme un enfant qu'un adulte, que quelqu'un de mature. Donc on va juste voir ça un peu. Ne soyez pas inquiète, ça ne va pas être très long. D'accord? Donc, dans la vie d'un adulte, si on parle dans la vie de tout le monde, il y a les choses. On grandit, on a un boulot. Après, peut-être il y a un loyer, il y a une voiture à payer, il y a les courses à faire, il y a les factures à payer. C'est un peu ça qu'on pense d'être adulte, n'est-ce pas? On commence une famille, on prend soin des enfants. C'est pas que moi, maintenant c'est moi et mon époux ou mon épouse. Ensuite, c'est les enfants aussi. Et ensuite, c'est les petits-enfants. Donc, il y a plein de choses et on commence à penser à d'autres personnes aussi. Mais c'est pas que ça. Une chose, ok, je vais juste suivre ma liste et puis à la fin, je pense que ce que je vais partager de France en feu, ça va un peu emmener tous les petits morceaux ensemble. Donc, merci de tenir avec moi jusqu'à là. Ok, une chose que je pense qui est importante pour être mature dans la foi, c'est pas juste parce que dans la vie, on a plein de choix. Et aujourd'hui, encore plus dans notre société. Mais une chose qui est très importante, c'est de prendre le temps à prier. C'est pas juste qu'il y a trois choix et celui-là, ça me plaît, j'y vais. Ou il y a une situation ou une opportunité et ça a l'air parfait pour moi. Tout quand on écrit, tout est pour et rien contre. Donc je fonce. Et on fait des fois des décisions juste parce qu'on voit, ça a l'air bon, j'y vais. Mais la maturité nous dit prendre le temps et simplement poser la question à Dieu. Saint-Esprit, est-ce que c'est ma place? Ce boulot, ça a l'air, c'est moi, pile poil, est-ce que j'y vais? Mais peut-être, il voit, certainement, il voit les choses qu'on ne voit pas. Et des fois, ce n'est pas notre place, même si ça a l'air d'être parfait pour nous. Ou parmi les trois choix, il y a un choix qui a l'air mieux, ça me convient plus, mais en fait, il sait plus que choix A est passé, ça, sur le long terme, c'est ça vraiment là où tu veux être, c'est la chose que tu veux. Donc, on veut vraiment marcher en partenariat avec le Saint-Esprit et pas juste foncer par ce qu'on voit avec les yeux naturels. Donc, ça, c'est la maturité spirituelle. Bien sûr, si on parle de notre vie avec Jésus, on veut chaque jour parler avec lui. Il faut, c'est une relation comme tous les autres. Donc, pour être mature, on veut être en relation tous les jours avec Dieu. Passer nos temps, et juste comme ça, être en discussion. Alors, je peux faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Jésus, il est notre ami, autant que notre sauveur, autant que notre Dieu. Donc, on veut passer la vie avec lui. Quand on est mature dans la foi, Heidi Baker, vous connaissez Heidi Baker? C'est une femme qui, avec son mari, a commencé une mission au Mozambique. On a notre mari d'avant qui est là, ou qui était là, qui travaille toujours avec. Et il prend les orphelins qui sont dans la déchetterie. Et ils ont bâti tout un orphelinat. Mais vraiment, elle a un super ministère. Et une chose, et juste avec cet exemple que je vous donne, elle dit souvent, love looks like something. L'amour, ça se ressemble à quelque chose. Ça veut dire que l'amour, c'est pas juste je t'aime, mais il y a une action. Et elle, avec son mari et toute l'équipe là-bas, ils aiment pratiquement les orphelins, ils les cherchent dans la déchetterie, ils leur donnent une maison et à manger et tout, éducation, tout. Et voilà, donc quand elle dit « love looks like something », que l'amour se ressemble à quelque chose, c'est parce qu'elle vit. Mais c'est Jésus qui l'a dit aussi, n'est-ce pas? Parce qu'on veut être les mains et les pieds de Jésus et pas juste les jolies paroles. C'était super quand on a parlé de ça avec les jeunes. Tout de suite, quelqu'un a dit, mais c'est être mature, c'est les fruits de l'esprit qu'on trouve en Galates 5, 22 et 23. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Ok, super. Et je vais citer aussi Benjamin Hafner parce qu'hier soir, au groupe de jeunes, il a parlé de perfectionnisme. C'était un bon message. Et à un moment donné, il a pris ses versets aussi. Il a dit qu'il était, c'était le pire dans son perfectionnisme. Il avait tous les fruits opposés. Tu disais ça, n'est-ce pas? Plus d'amour, pas de joie, plutôt angoisse que paix, plutôt exigence que patience. Tout ça. Et c'était vraiment un bon exemple. Et je pense que nous qui étions là, on pouvait vraiment se comprendre avec ce qu'il disait. Donc, souvent, dans la vie, si on exige des choses où on est un peu perfectionniste, un peu beaucoup, donc on peut revenir là. Et c'est vraiment des super versets pour nous. Revenir pour nous montrer à nouveau, est-ce que je vis vraiment avec ces fruits? Est-ce que je vis dans la liberté? Et pour atteindre ces fruits, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer par la transformation de notre intelligence. Et ça aussi, on peut trouver, j'ai plusieurs versets, mais je vais juste citer Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent ou la pensée de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok, là et d'autres endroits, on entend de Paul qu'on a besoin du Saint-Esprit d'avoir notre intelligence renouvelée. On est tous sortis du monde, du fonctionnement du monde, des pensées du monde. Et même en tant que chrétien, on est tellement entouré par la pensée du siècle ou la pensée du monde qu'on a souvent besoin d'être renouvelé à l'intelligence. Donc, ces versets, ce sont parmi mes préférés que je tienne à cœur, je reviens là quand j'ai du mal et je demande au Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence, j'ai besoin de toi pour dépasser tout ça, pour sortir de ce tourbillon qui me fait tourner encore et encore des fois. Donc je reviens avec ces versets et j'ai demandé ça parce que justement je veux pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'il y a, j'ai dit récemment que c'est brillant des fois, la vie. Il y a les endroits, les moments dans la vie où c'est brillant dans la tête. Et quand c'est brillant comme ça, on a vraiment besoin de discernement pour pouvoir, ok, là c'est la voix de Dieu et que toute autre voix se calme. Et se taise, en fait. Et voilà. Donc, des versets clés. Une chose, un encouragement. Il y a un verset où Paul, je n'ai pas, mais il a dit, priez pour vos leaders, pour vos responsables, pour ceux qui gouvernent. Vous connaissez. Il y a une raison. Ils en ont besoin. Juste comme on a prié aujourd'hui pour les chefs d'État et les dirigeants qui sont ensemble. Et même si on n'a pas voté pour une personne, peu importe. On veut prier pour cette personne d'avoir la sagesse, la protection pour lui, sa famille. Et, mais aussi, en tant que famille de Dieu, on veut être ensemble. Et si quelqu'un est responsable, c'est parce que Dieu, quelque part, a mis un appel ou a mis sa place là. Ça ne veut pas dire que cette personne est plus haut, mais ça veut dire que cette personne aura besoin de prière et de soutien et de l'aide. Donc, on veut soutenir nos responsables, mais aussi en tant que famille, si on est mature, si on est une famille mature et tout le monde prend sa place, ça va se ressembler beaucoup à tout le monde qui donne de input, qui partage son cœur, qui partage les visions, les soucis, les bonnes choses, les mauvaises choses qu'on voit. Mais si on est mature, on peut partager ça avec l'amour. Et ça, ça va nous aider, ça va nous souder. C'est une famille. Ce n'est pas juste, oh, pff, j'aime pas comment ça va, mais c'est à eux de, allez-y, gérer. Et puis, derrière, je râle. On fait ça un peu avec les politiques aussi, n'est-ce pas? On a, oh, ce président-là, qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce que tu as voté? Alors, si on a voté, au moins, on a essayé de donner notre voix, n'est-ce pas? Mais on peut prier derrière. Dans le cas d'une famille, dans une église, c'est bien d'aller voir les responsables, de partager et de bâtir les relations pour qu'il y ait justement cette confiance, mais aussi pour les responsables de faire l'autre côté. Je ne veux pas dire que c'est... Mais pour être équilibré et mature en tant que famille de Dieu, il faut les... Et ce n'est pas deux côtés non plus parce que nous sommes un corps. Donc je veux être prudent, j'espère que vous entendez mon cœur. C'est, on ne veut pas juste être là comme les petits oiseaux, les bébés oiseaux qui met la bouche ouverte en l'air et les oiseaux ne crient pas comme ça, heureusement. Plus comme ça. Et qu'on demande qu'on vienne avec les vers et les insectes pour nous nourrir, n'est-ce pas? Et le but des cultes et tout ça, c'est que pendant la semaine, chacun et chacune, chez soi, avec Jésus, on est en train de creuser dans la parole de Dieu parce qu'on a tellement besoin aussi d'être renouvelé, on a besoin de la parole de Dieu. On est en train de parler avec Jésus, on est en train de prier les uns pour les autres, on est en train de s'occuper les uns des autres. Si quelqu'un a besoin, notre Thibaut, il a dit, les chrétiens ne doivent pas payer pour déménager. Tu as dit quelque chose comme ça? Parce que son cœur, c'est de servir le corps de Christ. Si tu vois un besoin chez quelqu'un, c'est d'aller aider. Ça, c'est beau. Et ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est la vie en famille. C'est pas que les dimanches ou un samedi soir ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Merci, Béatrice. OK. On continue. OK. Et quand on a une foi mature, ça va se ressembler à quoi? Alors, c'est croire que Dieu est qui il dit il est. Et comment on va savoir ce que Dieu dit sur lui-même? On va lire la parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas? Mais après, c'est la foi, c'est parce que des fois, c'est tellement, ça nous dépasse. Il faut la foi, n'est-ce pas? C'est aussi croire ce qui il dit que nous sommes. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qui suis-je? Et ça, on a commencé aujourd'hui par renoncer les mensonges. On a tous cru les mensonges, on va croire les mensonges, mais on peut les toujours renoncer. On a besoin de cette révélation encore. Mais là encore, si on peut croire, je suis qui Dieu dit que je suis, ça va me faire grandir, où je peux être pleinement moi, dans mon identité, dans ma destinée, et pouvoir entrer dans mon appel. Vous voyez ce que je veux dire? Être mature dans la foi, c'est de vivre avec une espérance, même dans les circonstances difficiles, dures. On a tous passé par des choses très difficiles. Récemment, on a perdu pas mal d'êtres chers. Il y a des choses très difficiles qu'on passe, même si on a l'espérance. Pour ces personnes qui sont avec Jésus, pour eux, c'est la fête. Pour nous, c'est le deuil, pour dire au revoir. Mais il y a plein de circonstances qui sont difficiles, ou même dans la vie quotidienne, ce genre de choses. La voiture tombe en panne, ou le lave-vaisselle est mort. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Alors, il faut gérer ça. Mais est-ce qu'on peut vivre ça avec une foi ou même de la reconnaissance, ok? Déjà, j'ai des vaisselles et j'ai à manger dont j'ai besoin d'un lave-vaisselle. Ou, pas, on peut vivre sans, mais vous voyez ce que je veux dire. La voiture, on va prier pour la provision, que ce soit réglé. Mais est-ce qu'on peut vivre entre-temps dans cette espérance? On prie les uns pour les autres. Et est-ce qu'on peut être reconnaissant? Et je vais lire quelque chose qui est vraiment... Je vais dire deux choses. Alors, des fois, l'Internet ne marche plus. Tout de suite, je râle. Ça, c'est l'Internet. Plus d'eau chaude, c'est pas cool. OK? Donc, cette mentalité, tout de suite, je démarre avec... Argh! OK. Grand souffle. Comme on dit, des fois, sur les réseaux sociaux, on dit... First world problem. Donc, first world, premier monde, des soucis des personnes qui vivent dans les pays les plus riches. Plus d'internet, plus d'eau chaude, hein, n'est-ce pas? Donc, on est un peu conditionné. Donc, ça aussi, de garder cette vie de reconnaissance, ça, c'est à cultiver. Et récemment, on a eu les élections la semaine dernière aux États-Unis. Les élections, ça vient assez régulièrement. Notre pays, aux États-Unis, c'est pas mal divisé en ce moment. Si jamais vous avez un cœur de prier pour les États-Unis, les prières sont les bienvenues. Heureusement, ça s'est assez bien passé au niveau qu'il n'y avait pas de violence ou de gros trucs après. Donc déjà, ça c'est quelque chose. Mais sur les réseaux sociaux, on a tellement pris l'habitude de dire ce qu'on fait, de dire ce qu'on pense sans prendre en compte qu'il y a une personne derrière. On a déhumanisé les autres parce que c'est pas écrit, hein. On peut dire tout et rien. Ça se divise vite et je trouve que on ne respecte plus qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Et ce que je trouve au moins aux États-Unis, je pense un peu en France aussi, mais si tu n'es pas d'accord avec moi, je te déteste. C'est presque drastique que ça. C'est vraiment, c'est pas juste on n'est pas d'accord, on peut s'asseoir, on peut en parler. C'est vraiment, il y a quelque chose derrière qui n'est pas cool. Et aux États-Unis, ce qui est différent, c'est que on peut dire que je suis chrétien, souvent les politiques qui sont les politiciens, les politiciens qui ils s'alignent avec je suis chrétienne parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui votent aux États-Unis, donc pour gagner des votes des chrétiens on s'aligne avec la foi chrétienne. Ici ça c'est impensable, n'est-ce pas? Mais ça se fait. Donc on a le camp des chrétiens aussi qui sont aussi virulents contre les personnes qui n'ont pas le même avis. Est-ce que ça c'est être comme Christ? Non, pas du tout. Ça va pas. Donc avec tout ça, et aussi on a, pas tous les chrétiens, mais un peu ce mouvement, on a un peu le truc, mais on est chrétien, il faut nous respecter, il faut, ok? Tout ça, cette attitude. Et Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, on va regarder en Corinthiens, 1 Corinthiens 14, à partir du verset 11 au 13. Et il parlait à une église, les Corinthiens. Et il y avait Paul, et il y avait les super apôtres, comme Apollos, et d'autres qui étaient... Alors, Paul, apparemment, quand il parlait devant du monde, il était assez... Il n'était pas un super orateur. À l'écrit, très bien, l'orateur... Et il y avait d'autres potes, apparemment, qui faisaient le show. Ils avaient beaucoup derrière eux. Et aussi, les Corinthiens, ils avaient l'air d'être un peu fiers d'eux. OK? Donc, il leur parle et il dit... Pour lui-même et je ne me rappelle plus qui était avec lui, mais jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errons de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillante. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets au monde et traités comme le rebut de l'humanité. Quand j'ai lu ça récemment, et c'était autour des élections, j'étais juste, on est tellement loin de ça en tant que chrétien, au moins des chrétiens américains dont je parle. On est tellement loin. Si quelqu'un t'abuse verbalement, tu vas libérer les paroles bienveillantes. C'est possible. Mais dans la mentalité dont je parlais, dans tout ce truc politique, c'est vraiment, tu m'en donnes un, je t'en donne deux. Vous voyez un peu? Et ce sont les chrétiens, au moins à titre. Et ça ne va pas, ça. Donc la maturité, ça c'est quelque chose à atteindre. N'est-ce pas? Ça m'a vraiment... Oui, c'est notre mentalité. Je pense que nos frères et nos sœurs dans les pays persécutés, ils vont beaucoup mieux comprendre ces versets que nous. Voilà. Ouh. Ça va tout le monde? Donc, en tout ça, on veut garder, on veut mettre les choses en perspective, n'est-ce pas? Et on veut garder une culture de reconnaissance. Et je veux revenir, je vais parler de Christiane, probablement beaucoup, mais pas maintenant, mais dans la vie. Mais il y a, dans 2014, elle a commencé un journal de reconnaissance. Et chaque jour, elle passait à ce moment-là par un divorce, n'est-ce pas? Un divorce, c'était un peu dans ces eaux-là. C'était un moment très difficile. Et elle m'a dit, quand j'ai commencé, c'était dur au début. Mais le plus que je faisais, le plus que ça coulait. Et elle n'a pas lâché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Quel exemple. Mais c'était quelque chose, elle a dû, elle était intentionnelle. Elle a pris quelque chose, elle n'a pas lâché. Et on a vu les fruits de qui elle est et dans sa vie. OK. Le pardon. Ça, c'est tout joli quand on lit dans la Bible et tout ça. Mais qu'on est en face, et aussi si on parle, le plus proche qu'on est avec quelqu'un, le plus difficile des fois, c'est à pardonner. Parce que le plus proche qu'on est, le plus que ça fait mal. Ou le plus qu'on a les attentes. Dans la famille de Dieu, des fois, on a les attentes que, mais tu es, un peu comme je disais avant, mais tu es chrétien, pourquoi? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux me dire une telle chose? Mais les chrétiens sont humains aussi, n'est-ce pas? Et on a tous besoin de pardon. Jésus est venu, il est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés pour qu'on puisse être pardonné. Donc, on ne veut pas retenir le pardon, parce que quand on retient le pardon, quand on ne pardonne pas, c'est nous qui sommes en prison. Et Jésus, il y a un parabole. Il nous a dit très clairement, de sortir de ce prison, il faut pardonner. Et puis, ça s'ouvre et on peut sortir. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas fait quelque chose de mal. pardonner, c'est pas annuler ou nier qu'il y avait une offense ou quelque chose de mal qui s'est passé, d'accord? Mais le pardon, c'est simplement pardonner. Comme nous tous, on reçoit le pardon de Jésus gratuitement. Il était parfait, il a payé le prix pour moi, quand je ne le méritais pas. Je ne le mérite toujours pas. Mais il a choisi, il a fait. Donc si on suit l'exemple de Jésus, on va pardonner. Des fois, c'est un processus pour guérir après les événements. Mais le pardon, c'est la porte par laquelle on commence la guérison et la libération des blessures et des offenses. Je vous encourage. Alors, au début, en septembre, Luc il a commencé dans Éphésiens de parler. Et donc, on va, avec notre étude biblique, on va étudier plus Éphésiens. C'est un super livre. Je vous encourage tous vraiment d'y aller, d'en manger, digérer, cogiter et laisser tout ça rentrer. Mais le chapitre 4, je vous encourage vraiment, si vous avez moins de temps, d'aller direct au chapitre 4. Pour le pardon, il a dit simplement, 4, verset 32, « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Il y a plein de versets dans la Bible qui parlent du pardon. Mais j'ai pris celui-là parce que dans ce message aussi, si tu veux voir ce que ça se ressemble d'être un chrétien mature, chapitre 4, Éphésiens, mais Éphésiens 4, vas-y, creusez, vous allez voir. Il y a des bonnes choses claires et applicables à vivre. Et puis, on veut vivre ce qu'on croit. Si on dit que Dieu il est amour, on veut aimer. Si on dit que Dieu il guérit, on veut prier pour la guérison. Si on dit que Dieu il libère, on veut aider les autres à être libres. On veut faire le travail chez nous pour être libres. Ok, ça va tout le monde? Vous êtes toujours avec moi? Vous avez besoin de se lever, bouger un peu? Ok. Et je vais terminer en parlant, en ramenant ce qu'on a entendu à France en Feu avec tout ça. Ok? Je pense que je n'ai pas emmené trop de nouvelles choses, pas vraiment. Mais c'est toujours bien de se rappeler. Et aussi d'avoir une mesure, n'est-ce pas? C'est la parole. Ça, c'est notre mesure. Ok, là, dans ce domaine de ma vie, pas mal. Là, j'ai besoin de grandir un peu. Là, j'ai encore une offense, je dois pardonner. Donc, c'est bien d'entendre et revisiter. D'accord. OK. France en feu, Anne Griffith. Pour ceux qui étaient là en mai, elle était là. Une Anglaise qui est prophète. Elle est chouette, elle est marrante. Et elle était là avec Fabienne Ponce. Si vous connaissez, elle est pasteur de l'église Assemblée chrétienne à Toulouse. Et puis, il y avait tout un comité pour cet événement France en feu qui sont intervenus aussi. Mais c'est de là la majorité, Anne Griffith et Fabienne Ponce. Anne, vraiment en étant prophète, pas juste prophétique, elle parle vraiment dans les images et elle vit les choses extraordinaires. Et elle nous a partagé un rêve où elle a vu un ange qui tenait un bâton dans ses mains avec les pommes vers le haut. Elle avait le passage d'Apocalypse 10 et 11 où Dieu mesure le sanctuaire. Et elle disait que cet ange, il est en train de mesurer le sanctuaire et son peuple. Il mesure l'adoration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand elle a libéré? Peut-être tu peux m'aider si je ne vais pas aller dans les détails. Mais l'idée, c'est qu'il y a un ange avec une règle pour mesurer le peuple de Dieu. Mais on voit dans la Bible aussi que Dieu il va passer d'abord par son peuple pour mesurer avant d'aller plus loin. Donc, c'est le moment. Et quelque chose que j'ai... Alors, maintenant, c'est commentaire d'Alana. c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie. C'est que c'est bien de s'humilier devant Dieu et de ne pas attendre qu'il nous humilie lui-même. Parce qu'il va nous donner les indices. Eh oh, là, il faut si, attention, là, il faut se repentir. Et si on ne fait pas gaffe à un moment donné, il va nous aider à revenir à la repentance. Okay? Ça peut être un peu raide, dur. Donc, si on a l'habitude de s'examiner devant Dieu et s'humilier devant Dieu, c'est plus, un peu plus facile dans le processus d'être renouvelé. Donc, si il y a un ange qui nous mesure, ce serait le moment de prendre le temps et juste avec Dieu et dire, OK, est-ce qu'il y a les choses que tu veux traiter, me guérir, libérer, que j'ai besoin de repentir, demander pardon, pardonner. Voilà. OK. Elle a parlé de ce rêve. Ensuite, Samuel Olivier, il est venu aussi, vous connaissez, il écrit les chants, il est leader de louange. Il est venu et il chantait que la famille de Dieu se lève dans la maturité, dans l'esprit d'adoption. Lâchons nos manteaux d'immaturité. Soyons les adultes matures avec un cœur d'enfant. Fini le bac à sable. Okay. Donc, il chantait ça. Bien sûr, tout le monde a rigolé quand il chantait « Fini les bacs à sable ». Mais ça donne vraiment une bonne image, n'est-ce pas? Donc, vous voyez maintenant pourquoi ce message allait avec ce qu'on a reçu ce week-end-là. Ils ont continué pendant le week-end. C'était plusieurs fois qu'on est revenu sur l'idée aussi. Et Fabienne et Anne qui disaient « On doit lâcher nos blessures et ne pas les garder comme une partie de nous ou notre identité. » L'idée étant que des fois, « Oh, mais ça m'est arrivé, c'est qui je suis, je réagis comme ça, c'est juste qui je suis, ou il y a ce truc qui m'est arrivé, ça va me marquer à vie. » Et quelque part aussi, ça peut devenir comme un bouclier, on se protège. Non, je ne laisse pas les gens plus proches parce que j'étais blessée. Donc, c'était vraiment la parole de Dieu que c'est le moment d'arrêter ça. Comme Anne, elle dit, stop it. Stop it. Stop. Stop à se donner le droit de garder ces trucs qui nous empêchent à guérir, à grandir. Et ensuite, dans la bonté de Dieu, c'était imprévu, mais il y avait un temps de guérison. Fabienne, elle a invité la présence de Dieu de venir dans la guérison. Il y avait les délivrances dans la salle, les guérisons, les personnes qui tenaient les autres dans les bras et les personnes qui pleuraient et lâchaient les blessures et les choses dures de la vie. Donc ça, c'était juste la présence de Dieu qui a emmené la guérison. Et plusieurs ont gagné de la liberté. Donc c'est pour nous. C'est, la France en feu, c'est une conférence de louanges et d'intercession pour la France. Donc ce qu'on a vécu ce week-end-là, c'est pour nous tous, pour la France. Donc vous pouvez aussi, s'il y a quelque chose qui est venu dans ton esprit là, ah oui, il y a ce truc-là, je n'arrive pas à lâcher. Ok, maintenant, tu peux vivre ça aussi, parce que c'est ce que Dieu il est en train de libérer pour nous tous en France. Ouais, il y a d'autres choses, mais peut-être on va partager ça un autre temps. Et pour continuer un peu avec cette idée, une autre chose qui m'a beaucoup encouragée, c'était en fait Elvire, Denis. Elle aussi, elle est venue plusieurs fois en mai pour faire les séminaires de maison de prière. Elle est à Genève, elle fait partie du comité, et elle est venue, elle a partagé son témoignage de cette année, ce qui était, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mauvaises, bonnes idées. Et je venais à Dieu et je disais, ah, j'ai cette idée, je veux le faire. Et elle n'avait pas vraiment un feu vert, mais elle a dit, mais c'est une bonne idée, j'y vais. Et en allant, Dieu a dit, non. Ok, mais juste, j'ai cette bonne idée, donc j'y vais. Non. Ok, mais j'ai cette bonne idée. Non. Et elle a dit, au bout d'un moment, que j'étais pleine de mauvaises, bonnes idées. Mais Dieu me disait non. Et moi, j'étais enfin, j'ai dit, alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, j'ai compris cette année, parce que depuis au mois janvier, moi, j'ai dit avec mes mots plutôt, mais je ne comprends rien. Je vois ça, je dirais ça, mais Dieu me dit ça. Je ne comprends rien et je ne sais pas. Et pour la suite, on me posait des questions. Pour moi, pour le groupe de jeunes, je ne sais pas. Et en tant que responsable, tu ne te sens pas très responsable. Mais quand elle a dit ça, j'étais OK. C'est bien la saison dans ton vie. Donc si dans ta vie actuellement, tu as les « je ne sais pas », c'est un peu la saison de Dieu. Donc on continue, soyons fidèles en ce qu'on sait faire, on continue. Et à un moment donné, cette saison de « je ne sais pas », ça va changer, on aura une meilleure idée. Mais Dieu, il est à l'œuvre, ce n'est pas grave si on ne comprend pas, on fait confiance à Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ok. Et je vais revenir au message du perfectionnisme. Je suis au bout là, donc on y est presque. On veut faire gaffe, on veut vraiment... Ça m'a aidé le message de Benjamin hier aussi, parce que ça a comme emmené un élément que je manquais. Et parce qu'il disait... Et j'ai dit à la fin que moi aussi j'ai galéré avec le perfectionnisme, n'est-ce pas? Quelqu'un qui me connaît. Et, mais une chose qu'il disait, c'était j'étais tellement exigeant avec moi-même, donc je suis devenue exigeant envers les autres. Et là, on a un problème, n'est-ce pas? Aussi, ça peut laisser entrer un esprit de religion, religiosité. On ne veut pas la religion, on veut la relation, on veut la vie avec Dieu, mais pas la religion. Il faut faire comme ci, comme ça, et si tu ne fais pas, tu es mauvais. D'accord? Donc on ne veut pas tomber dans ça. Et quelque chose d'autre qu'il a dit qui était intéressant, que le perfectionnisme, ça peut isoler. Parce qu'on a tellement envie de faire parfaitement, on ne veut pas prendre le risque d'inclure les autres, ou il y a un truc de compétition. Je suis menacée par quelqu'un qui peut faire mieux que moi. Et pour moi, et même ce matin, j'ai commencé en disant, alors j'ai préparé quelque chose, mais je ne sais pas trop. C'était un peu ce truc, mais c'est pas comme d'autres fois, c'était plus facile pour moi. J'avais vraiment la pêche pour partager un message. Et là, j'étais juste, j'y vais. Et c'était un peu, OK, pas de perfectionnisme. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. J'ai fait mon mieux et on verra ce que ça donne. Mais ce truc de perfectionnisme, est-ce que vous avez remarqué des fois qu'il y a les gens qui ne sont pas chrétiens, qui aiment bien, mais ils savent aimer, ils ont le gros cœur, ils sont chaleureux, ils sont généreux. Et puis des fois, on est parmi les chrétiens et on est... Mais vraiment? On n'est pas très généreux dans certains côtés. Est-ce que vous avez remarqué des fois? Et puis tu es... c'est là où on parle de la maturité, justement. Si on a Jésus en nous, on devrait aimer. Et des fois, c'est plus facile à aimer les non-chrétiens. Et c'est quelque chose là, je vais piquer un peu de ce que Nadou disait récemment. Des fois, quand on est en famille, qui a grandi avec une grande famille, plusieurs frères et sœurs? Ok, Est-ce que vous avez eu les moments à table où c'était un peu les yeux sur les derniers morceaux de quelque chose? Qui va le manger? Qui aura le doigt à ce truc? J'ai envie, j'ai toujours faim. Est-ce que vous avez vécu ce genre de choses? Donc souvent, avec les non-chrétiens ou les personnes en manque, c'est facile à donner ce qu'on a, n'est-ce pas? Mais quand c'est la fratrie, c'est un peu de... Non, mais hier, toi, tu es le dernier. Aujourd'hui, c'est moi. Ou si lui, il prend ça, il n'y a plus rien pour moi. Donc, on rentre dans la compétition, la jalousie. On ne veut pas ça, n'est-ce pas? On ne veut pas ça. Donc, faisons gaffe, mes frères et mes sœurs, de s'aimer et de savoir que notre Père, il est grand, il a tout, il est généreux, on ne va pas être en manque. Le psaume 23, premier verset, en français. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Donc, soyons généreux les uns envers les autres et rappelons-nous que si je suis à ma place, je ne vais pas te gêner à ta place, ni à ta place. Mon cœur n'est pas de piquer la place à quelqu'un d'autre. Si on peut vivre comme ça, si je suis bien à ma place, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'aller prendre des autres. Et est-ce qu'on peut se réjouir quand les bonnes choses arrivent pour les autres? Est-ce que vous avez... Je sais, je ne vais pas demander que vous levez les mains. Mais je sais, à un moment donné, nous tous, on a eu un truc, quelqu'un a reçu quelque chose de super ou a été reconnu pour quelque chose. Et même si c'était juste pour quelques secondes, on avait un... Mais pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Mais est-ce que tu as vu ce qu'il a fait, lui? N'est-ce pas? On a-tu vécu ça? C'est dans nos cœurs des fois. Donc, laissons tout ça derrière. La jalousie et tout ça. Soyons généreux les uns pour les autres. Et est-ce qu'on peut se réjouir les uns pour les autres? Et même si, tout au début, et non, je ne suis pas jalouse parce que je ne manque de rien. Et Dieu, mon papa, il a les bonnes choses pour moi aussi. Vous voyez un peu? Ok. Voilà. Je pense qu'on va terminer avec ça. Mais je voudrais aussi qu'on prenne un peu de temps pour répondre. Si il est midi pile, et ici, ça c'est un exploit. Hein? Mais on va juste prendre un peu de temps pour... Ah oui, dernier verset. Juste comme on a besoin d'avoir notre intelligence renouvelée, Paul... Encore en Éphésiens, mais c'est Éphésiens 3 cette fois, verset 14 à 19. Et juste comme on a besoin du Saint-Esprit d'avoir notre intelligence renouvelée, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre et l'amour de Dieu pour nous. OK? Donc, si vous me connaissez, j'ai créé un chant avec ces paroles, mais c'est vraiment... Je prie cette prière pour moi et pour les autres autour de moi souvent. Paul qui prie pour les Éphésiens, je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Si on peut vraiment comprendre ça, si ça rentre au plus profond de nos tripes, on n'aura plus de jalousie. On n'aura plus de sentiment de manque. Ça, c'est notre identité que je suis aimée au-delà de ce que je peux comprendre. Et c'est là que ça va nous libérer d'aller pleinement à la maturité et d'aimer les uns les autres et d'être libérés du perfectionnisme. Parce que notre valeur n'est pas dans mes notes, ou si je réussis ou pas, ma valeur est dans le fait que je suis la fille de Dieu et qu'il m'aime. Ça ne changera jamais et il n'y a rien qui peut me séparer de son amour. Cette vérité, cette identité nous libère. Ok, si on va parler justement, si en parlant, tu t'es rendu compte que tu as besoin de pardonner à quelqu'un, on va prendre un temps de pardonner. Si tu t'es rendu compte qu'il y a une blessure et que tu tiens précieusement cette blessure parce que tu penses que ça fait partie de nous, et qu'est-ce que je fais sans ça? Je ne me connais pas sans cette blessure. On va demander, je n'ai pas une formule, on va demander Saint-Esprit de venir te libérer de cette blessure et d'emmener la guérison. Vous êtes d'accord? Et s'il y avait d'autres choses, et je ne reviens pas, si tu as besoin de demander pardon pour la jalousie, ou si tu veux juste dire merci pour le je ne sais pas, est-ce que je peux dire je ne sais pas, et c'est bon pour le moment. Mais on va prendre le moment. Stéphane, est-ce que tu peux faire un fond musical, s'il te plaît?